Samhain, c'était un temps dans lequel on rentre, donc cette fameuse saison sombre, l'automne, où on va commencer à plutôt être dans une sorte d'introspection, à essayer de préparer finalement le printemps. Et aussi, c'est aussi la fête des morts, vue par les Celtiques. Voilà. Donc de célébrer finalement l'autre monde. Connaît finalement assez peu, enfin en tout cas aujourd'hui on en connaît peu de choses, et ce qui crée plein de fantasmes, plein d'envie d'en parler. Voilà. C'est la deuxième année que le groupe de discussion Par la Racine, qui est un groupe de discussion autour de la mort et de tout ce qui l'entoure, organise la Samhain. Et on fait ça avec les membres de l'École de la Terre, qui est une sorte d'université populaire un peu transversale, on travaille ensemble justement pour se réapproprier et ou pouvoir réenchanter la mort. Et on travaille un petit peu au long cours dans l'année. Tout le monde a un petit peu ses marottes, ses occupations. Nous, Par la Racine, notre groupe, il y a des cafés mortels qui se font tous les derniers dimanches du mois. On essaye de faire des rendez-vous thématiques. Il y a plusieurs personnes au sein du groupe qui se sont formées pour être conseillers funéraires. On est deux. Il y a des personnes qui sont très intéressées par le soin palliatif et qui sont en lien avec une autre association qui s'appelle L'Arbre. Donc ça fait beaucoup de gens. L'année dernière, c'était la première Samhain qui réunissait en fait tous ces acteurs, et on a vécu une semaine assez magique où tout le monde est parti heureux et libéré d'avoir pu enfin aborder tous ces sujets. Cette année, avec tout ce qui s'est passé, cette fameuse saleté de Covid, ça n'a jamais autant mis en fait la mort au centre de nos vies. Et malgré l'interdiction qu'on a, ou en tout cas le soin qu'on a à garder nos distances, à faire attention, les gestes barrières, etc., il nous paraissait essentiel en fait de continuer la Samhain cette année, parce que le sujet nous concerne plus que vivement. Et en même temps, tout l'enjeu a été de faire un petit Samhain. On n'a pas trop communiqué dessus pour qu'on puisse être peu, pour qu'on puisse respecter un petit peu les distances de chacun. Donc on a travaillé en petits groupes. Donc on était aussi en équipe fractionnée. Malheureusement, L'Arbre, du coup, a pas pu... Enfin voilà, ils n'ont pas été là. Mais on a orienté vers un film qui était projeté à Émoutier, qui s'appelle Les Équilibristes de Perrine Michel, et qui parle du soin palliatif. Donc il y avait quand même un lien avec l'asso, on a réussi à maintenir un truc. Et puis beaucoup d'entre nous, Par la Racine, étaient occupés, mais on a réussi quand même à faire tant bien que mal un petit quelque chose. On a gardé, en tout cas sur deux jours, le principe de partir d'une expérience personnelle. Donc les gens ont pu se livrer sur leur expérience de mort, ou qu'est-ce qu'ils pouvaient considérer de la mort. Pour ensuite, effectivement, aller sur des témoignages sur l'accompagnement de fin de vie. Comment on va vers la mort. Donc il y a eu plusieurs témoignages d'accompagnement de fin de vie. Et puis ensuite, vers aller plus du collectif. De se donner des outils. Donc on a créé des fictions, on a écrit des fictions de funérailles qui se passent bien, qui se sont pas bien passées, qu'on a vécu, qui se sont bien passées, mais dans le futur. Donc il y avait toute une petite jonglerie comme ça dans le cerveau, mais qui était rigolote et qui nous a permis d'imaginer en fait comment réenchanter finalement des funérailles, la mort, quelle dimension en fait on donnait à la mort. Et pour nous aider, donc il y avait Vinciane Després avec nous.
Non, Je m'appelle Vinciane Després, je suis philosophe et plus précisément je me suis spécialisée dans la philosophie des sciences parce que je suis beaucoup consacrée à l'éthologie, c'est-à-dire à l'étude des animaux et à étudier le travail des scientifiques qui étudient les animaux. Je suis liégeoise, je donne cours à l'université de Liège et puis j'ai aussi travaillé, puisque je suis psychologue, sur certains des problèmes de la que pose la psychologie, non pas que qui étudie la psychologie, mais plutôt que pose la psychologie, parce que je pense que c'est une discipline assez problématique, et notamment assez problématique dans la manière dont elle traite la question du statut des morts. Ben, j'ai été invitée par Guillaume et Hélène, qui m'ont demandé de venir les aider à réfléchir à la question pratique, d'abord de qu'est-ce qu'on fait avec nos morts, qu'est-ce qu'on fait pour nos morts, comment est-ce que les morts peuvent continuer à nous aider. Quelles sont les questions politiques qu'ils posent et comment pouvoir créer certains types de rituels qui pourraient nous aider à mieux les honorer, à mieux vivre aussi la question de la perte et du départ. On avait décidé de travailler ensemble sur la question des rituels et donc peut-être de la traiter pratiquement, c'est-à-dire quels sont les types de rituels qu'on voudrait inventer. Et on a décidé collectivement que peut-être la meilleure façon de pouvoir traiter cette question, c'était d'inventer des fictions, pour ne pas dire on devrait ou on doit, qui à mon avis pourrait limiter l'imagination. Et donc on s'est répartis en groupes de 4-5 personnes, on a fait 4 groupes, et la consigne était, voilà, votre histoire se passe dans le futur, il y a un mort, vous devez le déterminer, vous devez essayer de préciser qui il était, comment est-ce qu'il ou elle est mort ou morte. Et on vous demande de suivre tout le processus des funérailles, du choix des funérailles, du choix peut-être même de la façon de mourir et des rituels qui vont suivre les funérailles, des hommages, etc. Et donc il y a eu 4 situations alors ça doit se passer dans le futur, mais vous devez en parler au passé. Donc vous êtes déjà après l'événement et vous devez le décrire de telle sorte à bien peupler le monde que vous allez créer et que votre mort ne soit pas tout seul et mal accompagné.
Il faut la montagne, ça paye vrai l'océan. L'immensité verte a laissé sa place à la grande bleue. Les climatologues et les collapsologues nous l'avaient bien prédit. Les eaux monteront. Aujourd'hui, elles sont là. Notre plateau limousin a pu poursuivre sa tradition d'accueil en devenant le refuge de tous, animaux et humains. Limoges est sous les eaux, Clermont-Ferrand est sous les eaux, Superbès est devenue notre capitale administrative. Les effets de la surpopulation ont entraîné maladies, pénurie de logements, famine, provoqué un taux de mortalité inédit. Chaque parcelle de terre devenait précieuse. Nos cimetières devaient désormais être aquatiques. L'aquamation avait remplacé l'inhumation. En récupérant ainsi les corps comme une matière organique capable de générer de l'énergie fossile pour la civilisation survivante. L'État, dans cette gestion de crise, avait parachevé son projet capitaliste de faire des corps humains et du vivant tout entier une marchandise.
Tout avait commencé avec CIBV. Les signes avant-coureurs étaient là. Cette entreprise prélevait les rémanents, les souches, les racines pour chauffer les villes. 8 années avaient suffi pour appauvrir la forêt, la privant de sa capacité de régénération. Puis vint Veolia pour extraire le fumier et priver ainsi les zones agricoles d'une source de fertilité.
La biomasse était devenue un produit de négoce. Il était urgent de sauver nos terres et la vie. Pour résister, sur l'île de Vrai-l'Océan, nous tentions de garder nos morts en les cachant pour continuer à faire vivre leurs esprits, nourrir nos terres et préserver l'équilibre du vivant. Enterrer ces morts comme acte de résistance, c'était ce qui nous restait pour nourrir notre mémoire et perpétuer notre histoire. Mais la répression faisait rage, et souvent les autorités étaient là, au chevet du mourant, et guettaient l'instant où ils nous priveraient de sa dépouille.
Vrai-l'Océan est une vraie Babylone, où circulent des langues, des dialectes, des traditions de savoir de pays différents. Chaque personne prend soin de partager et de faire vivre ses précieux enseignements pour ne pas les perdre. Il s'agit d'un vrai système de sauvegarde. Transmettre pour ne surtout pas oublier. C'était Tamara, notre sage-femme, qui partageait ses connaissances qu'elle détenait de ses ancêtres soudanais. Aussi, elle entretenait des relations singulières avec certains animaux de la forêt, notamment une louve. Sentant sa mort venir, elle rassembla ses proches autour de banquets. Festin après festin, notre Tamale, qu'on avait connue si fluette, avait pris un peu d'embonpoint. Un soir, l'un de ces fameux repas, elle demanda qu'on apportât, selon une liste précise, des petits fruits, des baies, des herbes séchées. Mais plutôt que de festoyer ensemble, elle se retira avec ses victuailles dans la forêt. Beaucoup d'entre nous essayèrent d'aller à sa rencontre. Chaque visite se soldait par un échec, où nous nous heurtions à la louve qui nous barrait le chemin. Comment accepter son geste ? Il était si difficile de la voir se retirer du monde, elle qui était si pleine de vie. C'est à contre-cœur qu'il fallait se faire à l'idée de la laisser partir.
Après quelques semaines, un silence enveloppa nos contrées jusqu'à atteindre nos cœurs. Sans concertation, nous comprîmes qu'il était arrivé quelque chose et que peut-être elle nous avait quittés.
Une nouvelle fois, une équipe se lança à sa recherche. La louve n'était plus là. On put alors avancer et découvrir qu'il fallait traverser un couloir d'épines, des feuilles en cercle, des branchages tressés et des pierres bien alignées. Au bout de ce chemin, aux arrangements soigneusement préparés, à la jonction de ses dessins, Tamale était là.
Devant le spectacle de sa mort mise en scène, il leur fallut comprendre, accepter, se taire. Alors tous réalisèrent son plan de s'être si bien nourri pour préparer l'appétence de son corps.
Elle venait de leur offrir un dernier enseignement. Ils et elles reprirent le chemin du village pour annoncer que Tamale avait donné son corps pour continuer le cycle de la vie. La louve s'était délectée d'une viande aux saveurs de baies et de petits fruits.
La tristesse, la sidération laissèrent place à une fête de 3 jours et 3 nuits. Voici l'héritage de Tamale, le retour de l'humain à sa juste place dans le règne animal. Un espoir pour la communauté.
Et sur peut-être une nécessaire re-réflexion de qu'est-ce qu'on appelle respect et qu'est-ce que c'est qu'une manifestation de respect. Et aussi, bien sûr, sur une critique de l'exceptionnalisme humain qui enjoint du fait, qui nous fait croire que nous avons le droit de manger tous les animaux, mais qu'aucun animal n'a le droit de nous manger. Et puis, on a évidemment parlé de culture où le fait d'offrir son corps, de demander à des animaux de nous aider à recycler les corps, et ce sont des pratiques extrêmement respectueuses, et c'est là où le respect évidemment prend des définitions très différentes. Eh bien, j'aurais préféré ne pas mourir personnellement, mais c'est parce que je ne suis pas encore assez âgée sans doute que pour pouvoir, bien que je commence à atteindre un âge où on peut mourir plus facilement. Qu'est-ce que je souhaiterais comme mort ? Écoutez, moi je vais plutôt parler de... Je souhaite d'abord mourir après... Je souhaite mourir d'abord avant les autres. Je vais dire par là que maintenant il ne reste plus personne. Je suis la plus âgée de ma famille, donc je vais dire je suis mère, je suis grand-mère. Et je voudrais que pour ce coup-ci, l'ordre des générations soit respecté. Donc je voudrais partir avant tout le monde. Ça c'est la première chose, mais pas trop tôt quand même. Je souhaiterais partir, si possible, pas dans d'atroces souffrances. Je souhaiterais partir sans... Alors moi personnellement, perdre la tête, ça ne me gênerait pas trop parce que finalement, bon, j'en aurais fait ce que j'ai pu en faire et puis voilà, j'ai fait mon travail. Mais c'est pour les autres que c'est gênant parce que c'est les autres qui souffrent de ne plus reconnaître la personne à laquelle ils ont eu affaire. Et puis, moi, j'ai vécu... ma mère est morte d'une euthanasie choisie. Et c'était un moment, pour elle comme pour nous, qui est un moment dramatiquement douloureux parce que nous aimions profondément et que c'était trop tôt pour tous. Mais c'était très beau. C'était très beau parce qu'on a passé les derniers jours ensemble et on a dit plein de choses. On a trié les photos, on a regardé, on a parlé des souvenirs, on a mangé, on a bu du champagne. On lui a pris, à l'âge de 79 ans, à fumer son premier pétard. Et puis son deuxième, parce qu'elle prétendait que le premier n'avait pas fait effet. Et puis le troisième, alors qu'elle avait l'air d'un hamster sous extase, avec les yeux rouges fluorescents, qui disait « c'est quand même bizarre que ça ne me fasse aucun effet ». Donc je vais dire, c'était à 2 heures avant sa mort, on pleurait de rire. On pleurait de rire 2 ans avant sa mort. Et puis on était là, mon frère, ma sœur et moi, qui nous aimons profondément, et ça a renforcé nos liens d'amour, à tenir la main et les épaules et le visage de maman au moment où elle partait, et à la bénir de tout ce qu'elle avait apporté, de tout ce qu'elle avait fait grandir. Et ça, je me dis que si ma famille voulait me faire quelque chose comme ça, et si c'était l'euthanasie qui s'imposait, ou une mort où je resterais relativement présente consciemment, et où ils sont là juste au moment où je m'en vis, ce serait pas plus mal, avec un peu de champagne si c'est possible, et peut-être que je recommencerai à fumer.
En ligne de fond de tout ça, ce qu'on souhaite, c'est créer un outil pour le territoire, pour la montagne Limousine, un outil d'accompagnement en fait pour mener à bien les funérailles. Donc aussi bien depuis le soin palliatif, effectivement, l'accompagnement, l'aide avec le soutien de l'arbre du maintien à domicile, si les gens le souhaitent bien sûr, l'organisation des funérailles, etc. Et puis l'accompagnement dans le deuil, voilà, toutes ces choses. Et donc pour nous, il était hyper important de remettre la mort en fait au centre de nos vies, de plus qu'elle soit tabou, et de montrer à quel point elle a été instrumentalisée, et comme il est bon en fait de la réintégrer dans nos vies pour ne plus avoir peur.
Non tu ancho pare mai me, trovo capitani. Non tu ancho pare mai me, trovo capitani. Me, trovo capitani.